Bonjour Michaela.
Bonjour Claude.
Comment vas-tu?
Ça va.
Moyen. Ouais, moyen, un petit peu de douleur. Bon, eh ben, écoute, on va quand même poursuivre la petite histoire de notre vie. Hein,
parce que, on va essayer, oui.
Parce que maintenant, dans le précédent épisode, on a arrêté le 21 février 2021. On a arrêté lors de ta... Lorsque tu as quitté Colias pour venir rejoindre Aix-en-Provence, où nous avons vécu ensemble. Alors aujourd'hui, eh bien, nous poursuivons. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2021. Nous sommes toujours à Auray et eh bien, nous allons poursuivre la petite histoire de notre vie. Alors, effectivement, nous avons vécu ensemble dans un joli appartement à Aix-en-Provence.
Ouais.
Tu t'en souviens ?
Oui, parfaitement. Oui, oui.
C'est toi qui l'avais trouvé ?
Mais oui, ah, c'était un coup de bol.
Oui, mais c'était bien.
Oui, c'était très bien.
Ouais. Oh.
Tu te souviens de l'adresse ?
Non, je me souviens de l'endroit, mais je ne me souviens
aussi.
Pas de l'adresse. Ouais. Je me souviens. C'était sur la sortie d'Aix-en-Provence vers la...
Dans les Alpes.
Préalpes, voilà.
Ouais. Pas loin du lycée.
Pas loin du lycée, pas loin de là où tu faisais ton petit marché de vin.
C'était en face.
C'était en face, oui, mais c'était bien, c'était un épisode sympa. Tu avais acheté un grand parasol, et puis tu te mettais dessous, là, voilà.
Puis une table. C'était un parasol de forain. Hein.
Ouais, tu étais bien équipé. Bon, alors cet épisode-là, qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion ultérieurement ?
Vie à Aix ?
Non, d'abord le petit marché.
Le petit marché, c'était sympa. Ça m'a permis de faire mes armes. Bon, j'avais pas une clientèle énorme, mais c'était sympa.
Tu vendais
sympa.
Du vin, faire tes armes. Ouais.
Je vendais essentiellement du vin de Anne-Hugues.
Oui.
Et puis un peu de rosé de Provence aussi,
ouais.
Oui. Et puis du rouge, bien sûr.
D'accord.
Et voilà, c'était... j'aimais bien.
Ouais.
D'abord, le marché était sympa. Le légumier, il était sympa aussi. C'est le gars vendait des légumes.
T'avais même un rempailleur de chaises.
Ouais, le père Lachaise.
Le père Lachaise,
ouais,
voilà.
Tout à fait. Que t'es sympa aussi. Bon, un peu bougon, mais sympa.
D'accord.
Et puis, l'endroit, c'était quand même idéal, parce que le vin était dans la cave, il suffisait de traverser la rue. Donc, je pouvais rapidement alimenter mon stand.
C'est bien. Et alors, parle-nous un petit peu de ce séjour à Aix. Ces premières armes que l'on faisait ensemble.
Enfin, les armes...
c'était armé un peu de temps en temps.
S'habituer à la vie à deux.
Voilà.
Puisque avant, bon, ça faisait un moment qu'on habitait seul l'un et l'autre.
Voilà.
Enfin, toi, pas tout à fait, mais.
Oui, assez souvent. Ouais.
J'aimais bien Aix. J'avais trouvé ma petite place dans le groupe des vigneronnes.
Ah oui, ça on en a déjà parlé la dernière fois.
Donc ça c'était sympa, on avait quelques amis, on avait un peu de slow food déjà.
Alors il faut parler de slow food. On a...
En 2005.
Là on est en 2004-2005, tout à fait. Et on a découvert slow food, tu te souviens où ça ?
À Aix, non ?
Non. Non, à Aix, on ne pouvait pas parce que le convivium n'était pas sympa.
À Avignon, dans le Gard.
À Montpellier.
Oui.
À Montpellier.
À l'espèce de foire.
Oui, c'était une sorte de petit marché organisé par Slow Food.
Oui, c'était un petit salon.
Un petit salon avec des producteurs qui venaient d'Italie, qui venaient de... de France aussi, mais et c'est là où moi j'ai eu mon premier coup de cœur pour Slow Food, mais on va expliquer ce qu'est Slow Food. Et c'est cette rencontre avec son président, Carlo Petrini, moi qui m'a... ça m'a ému, ça m'a bouleversé, ça m'a donné envie de prendre conscience que mon alimentation n'était pas bonne à l'époque, parce que je faisais pas attention à ci ou à ça. Et grâce à toi et à Carlo Petrini, on a fait beaucoup de progrès dans notre connaissance de l'alimentation. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'était Slow Food? Ce qu'est toujours Slow Food, d'ailleurs.
Oui. Slow Food, c'est du bon, propre et juste, et le plaisir de partager ce qu'on mange.
Voilà, ça, c'est la baseline.
Oui.
Voilà.
Tout à fait. Slow Food a été...
Alors, bon, propre et juste. Tu peux expliquer cette maxime-là?
Bon à manger.
Voilà.
Donc des bons produits, voilà. Des bons mets, des bonnes préparations, propres, que ce soit propre pour l'environnement, pour ceux qui cultivent, pour ceux qui mangent. Donc c'est pas label bio, mais c'est faire attention comment on cultive ces produits, comment on élève les animaux et qu'est-ce qu'on utilise pour manger. Et juste pour que et le producteur et le consommateur s'y retrouvent.
Voilà.
Voilà. Et donc, acheter local, acheter de saison, préparer soi-même, etc. Voilà, en quelques mots, le...
Slow Food.
Slow Food. Et Slow Food avait été créé par Carlo Petrini...
dans les années 80-90.
Dans les années 80, il est originaire de la région de Turin, et sur la place d'Espagne, qui est la plus belle place de Turin.
De Rome, c'était à Rome.
Non.
La place d'Espagne est à Rome.
À Rome. Il y était, et puis il a vu qu'il y avait des travaux.
À cette époque-là, il était critique gastronomique.
Il était journaliste et critique gastronomique.
Il était avec des copains, Place d'Espagne.
Il mangeait dans un restaurant quelconque, et puis on faisait des travaux à côté. Donc il a demandé, qu'est-ce qu'on y fait là? Et le serveur lui a répondu, voilà, on va installer un fast-food. Donc,
c'est-à-dire un McDo, quoi, pour parler trivialement.
Oui, une espèce de McDo. C'était peut-être pas l'enseigne McDo, mais c'était le principe du fast-food. Et donc, Carlo Petrini a dit, si eux, ils font le fast-food, moi, je veux créer le slow-food.
C'est-à-dire la nourriture lente par rapport à la nourriture rapide.
Moi je dirais pas la nourriture lente, je dirais que c'est du bon, propre et juste.
D'accord.
Voilà.
Bon, alors donc on a fait connaissance avec Slow Food.
Carlo Petrini à Montpellier, dans un petit salon.
On a essayé de se rapprocher des... Alors, l'organisation de Slow Food à l'échelon international... Bon, c'est une organisation internationale qui était présente à l'époque dans 120 pays, et qui était implantée en France un petit peu de façon assez aléatoire.
Les Français n'étaient pas vraiment très sensibles à ce concept.
Oui, tout à fait.
Bon, d'abord parce qu'ils confondaient avec les bio, ils confondaient avec ceci, cela, etc. Et puis de toute façon, les Français pensaient que leur façon d'élever et de produire était sans faille et sans critique, et que de toute façon, c'était le pays de la gastronomie. Donc surtout, les Italiens n'avaient rien à leur apprendre.
Voilà, et ça, c'était une grave erreur, et on en reparlera par la suite de nos podcasts. Ouais. Et donc, on a cherché à se rapprocher de Slow Food. L'organisation de Slow Food est une organisation en convivium. Le convivium, c'est la représentation de slow food de façon locale, de façon régionale. Et c'est à travers ces conviviums que slow food se déploie et se répand dans la population. Nous, on a essayé de solliciter les gens de slow food à Aix-en-Provence. On a eu dans un petit marché, bon, je me souviens que ça n'avait pas été tout à fait un grand moment parce que bon,
ils étaient slow food sans vraiment être slow food.
Tout à fait.
C'était un peu juste. Donc on a créé notre propre convivium.
Après. C'est venu après le convivium. On a essayé de se rapprocher de slow food dans les Alpes-Maritimes. Ça n'a pas été un grand moment non plus parce que eux, alors, ils gueuletonnaient dans les trois étoiles et bon.
Aix aussi un peu. Hein.
Et Aix aussi. Voilà. Donc ça, c'est notre première rencontre avec slow food. De mon côté, pendant ce temps-là, eh bien, on était fin 2005. J'avais terminé la négociation de mon licenciement, qui s'était pas si mal passé. Et j'ai quitté Big Mat le 31 décembre 2005 avec trois années de salaire, ce qui était bien
pas mal
à l'époque, et ce qui nous a permis de faire des choses, parce que après mon divorce avec Christine, je ne suis pas sorti en bon état financier. Donc, nous voilà bientôt à la fin de mon activité professionnelle. J'étais pas encore à prendre ma retraite. J'avais une année de RAB, toujours continué à payer par Big Mat. Et on en a profité pour réfléchir un petit peu à notre devenir. Aix-en-Provence était cher, trop cher. La Méditerranée et l'arc méditerranéen étaient à nos yeux trop chers. On n'avait pas les moyens d'investir dans une maison, dans quelque chose.
Parce que tu voulais être au bord de la mer ?
Et moi, je voulais être au bord de la mer. Et puis, trop sûr, Marc.
Et tu alors ? Tu ne voulais pas aller dans le Gard, puis encore moins dans la Lozère.
Dans la Lozère, si, c'était sympa. J'avais plein de bons copains là-bas.
Oui, mais je voulais être au bord de la mer.
Mais je voulais être au bord de la mer. Alors, on s'est dit, on va quitter la Méditerranée et on va rejoindre l'Atlantique.
Ouais.
Alors, pour chercher à s'installer... dans le courant du mois de novembre ou décembre 2005, j'avais organisé à l'époque, sur 3-4 jours, ou une semaine peut-être, avec des agences immobilières, sur un cahier des charges
que j'avais bien préparé. Tu avais pris les contacts, les rendez-vous.
Et on avait pris des rendez-vous pour visiter entre 100 et 120 maisons en une semaine, et entre Bordeaux et Rennes.
Ouais.
Voilà. Et ben, nous voilà partis. La première maison que l'on visite dans la région bordelaise, à Blaye. Tu te souviens ?
Ah oui, alors, très bien.
Qu'est-ce que c'était ?
C'est une petite maison qu'il fallait quand même un peu restaurer, mais avec un peu de terrain autour qui était pas à Blaye même.
Non.
C'était à côté de...
Saint-Génis.
Bon.
Pas très loin de la centrale de Blaye,
ouais,
qu'on voyait d'ailleurs, ouais, de notre maison.
Ouais. Ouais.
Maison plantée sur une colline qui surplombait la Garonne.
Ouais.
Et la Garonne ou la Gironde ? Plutôt la Gironde. Et là, eh bien, on s'est arrêté un long moment.
Pour... Bah, c'était pas mal le prix on pouvait se l'offrir, oui. Et puis, bon, c'était bien situé. Blaye était sympa, Bordeaux était sympa aussi. Et puis, on s'était trouvé un gîte.
Alors, c'est après.
C'est après.
Ça, c'est après. Ouais. Alors, on va continuer nos pérégrinations au milieu des agences immobilières. Donc là, on visite une maison qui avait été très bien retapée par un entrepreneur qui s'appelait Michel Salou. Mmh. Donc, c'était la spécialité. Lui, en tant que marchand de biens, il achetait des ruines. Et puis, son entreprise... De maçonnerie et autres, retaper ses ruines, mais de jolie façon.
Ouais. Donc il avait du goût.
Oui, il avait beaucoup de goût. Donc ça nous avait interpellés. Puis la rencontre avec Michel Salou est un très bon souvenir. Très, très bon souvenir. Il était venu nous voir avec sa femme,
Fran. Une Américaine.
Une Américaine, au tempérament un peu... Indienne Navarro, là, bon, mais sympa. Et donc, voilà, ça, c'est la première maison qu'on a visitée. Tout de suite, elle nous tape dans l'œil. Bon, ouais. Mais on n'en reste pas là. On avait du chemin à faire pour rejoindre...
On avait été chez le notaire aussi.
Après. Oui. Dans un premier temps, on fait notre choix et on cherche une maison. Oui. Donc, celle-là, du côté de Blaye, nous avait bien plu, mais on a décidé quand même de continuer notre chemin. Et là, on a visité des trucs et des machins pas possibles. Quelquefois, on descendait même pas de voiture parce que ce que nous proposait l'agent immobilier répondait pas au cahier des charges. Et puis, on a vu quand même deux, trois maisons sympas, dont une où j'ai gardé un bon souvenir, c'était au pays de la charcuterie, là, c'était chez qui ? Ah. Cette maison qui était une ancienne usine menuiserie,
oui,
tu te souviens ?
Oui.
Alors, qu'est-ce
c'était
que...
en Charente, non ? C'était pas en Charente ? Je ne sais plus.
Je ne sais plus, moi non plus. Peut-être pas en Charente. Bon, peu importe. C'était une maison qui nous a tapé dans l'œil parce que d'abord elle était immense.
Ouais.
Et puis elle avait une belle façade. Et derrière, quand tu rentrais dans la maison, tu avais un puits à l'intérieur de la maison. Tu avais, pour continuer, tu te promenais dans des sortes de caves, etc.
Elle était sur trois niveaux. Hein,
elle était sur plusieurs niveaux. Ouais. Et sur l'arrière de la maison, tu avais une ancienne usine, le mot est un peu fort, de menuiserie.
Tu avais un atelier.
Il y avait un grand atelier. Mmh. On aurait pu faire une salle de bal là-dedans. Mmh. Hein, c'était bien. Et puis, bon, ben voilà, ça c'était...
Mais elle était quand même mitoyenne avec un autre truc qui n'était pas top.
Alors, elle était mitoyenne avec quelque chose... Hein? Ça, c'est pas ça qui m'a frappé. Moi, je me souviens qu'on visite cette maison, c'était un samedi, quelque chose comme ça. Et puis, on en visite une ou deux autres à côté. Et puis, le dimanche, on se dit, on va retourner voir la maison. Mmh. Et puis là, on a garé notre voiture, non pas devant, mais derrière. Et on descend de voiture et on voit cet immense toit qui recouvrait quand même...
300 mètres carrés.
Oui, bien 300 mètres carrés là-dedans. Et en regardant le toit, on s'aperçoit qu'il y a la charpente à refaire. Et la charpente à refaire, ben là, si la maison était peut-être dans nos moyens, mais parce qu'il fallait la remodeler un peu à l'intérieur aussi, mais refaire la charpente. Ça, c'était quelque chose qui...
Et puis, tu avais décrété aussi que, en fait, tu voulais acheter une maison où tu n'avais pas de travaux à faire.
Je voulais mettre les pieds sous la table. Ouais. C'était l'enjeu. Mettre les pieds sous la table, ben, pourquoi je voulais ça ? Parce que, en fin de compte, ayant été marchand de matériaux pendant 25 ou 30 ans, les maçons, je les connaissais, les entrepreneurs, je les connaissais, Et je me suis dit, déjà, pendant ma, ma vie professionnelle, je n'ai pas fait construire de maison par tous ces professionnels que je côtoyais quotidiennement, multi-quotidiennement, en me disant, voilà, on va se fâcher, et ça, ce n'est pas bon pour le commerce. Et donc, je n'ai rien fait. Et arrivé à la presque retraite, je me suis dit, non, ça c'est pareil, on va se chercher quelque chose, on a un peu de temps, on va chercher quelque chose pour arriver et puis poser nos valises et mettre les pieds sous la table. Mais rien de tout ça s'est produit. Donc, cette maison-là, on l'a... Pouzauge, c'était la Pouzauge de la maison. Oui. Et c'était au pays du pâté Enaf ou quelque chose comme ça. Il y avait des petits trucs alimentaires là-bas. Et donc,
on a fait notre tour.
On a fait notre tour en voyant d'autres maisons, certaines intéressantes, posées sur la mer ou à côté, etc. Mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas.
Et puis, on avait quand même dans l'œil la première maison qu'on avait vue.
Exactement. Et tu m'enlèves les mots de la bouche. Effectivement, nous, on est revenus à nos premiers amours. Et puis, bien, revenant à ces premiers amours, on s'est dit, voilà, on va acheter cette maison. Donc, on signe un compromis avec... non pas une agence, mais avec notre...
Avec un notaire.
Non. Le compromis, on l'a signé avec Michel Salou, avec notre vendeur. Et puis, on prend rendez-vous chez le notaire, et ça, c'était en...
On n'avait pas signé le compromis. Si. Non, c'est chez le notaire qu'on on allait pour signer notre compromis. On s'était dit, on va l'acheter.
Oui, tu as raison.
Et c'est le notaire qui a dit, voilà, il y a un problème.
Il y a, un problème énorme. Et ce notaire-là, qui était une dame très bien à Bordeaux, je ne me souviens plus de son nom, mais dit, voilà, moi, je ne signe pas
ce bien.
Bon, alors vous ne signez pas. Ben non, il y a un droit de passage. Et le droit de passage, c'est devant votre séjour. Et là, ben, on est tous tombés, parce que l'entrepreneur qui était avec nous, bien sûr, pour cette signature... Et
il n'avait pas connaissance.
Il n'avait pas connaissance du droit de passage. Après coup, ben...
La notaire, elle avait dit, voilà, où ça s'arrange. Vous discutez avec le... Avec l'ancien propriétaire et celui qui a le droit de passage. Et dans ce cas-là, on peut signer, ou ça ne s'arrange pas, et il faut chercher autre chose.
Voilà. Alors, du coup, on est retourné sur les lieux. La maison était toujours à vendre, et on a été voir les voisins pour savoir ce qu'ils pensaient du droit de passage et ce qu'ils étaient prêts à faire, etc. Et en fin de compte, ils n'ont pas démordu de leur position. Ils ont maintenu ce droit de passage, ce qui faisait que il n'y avait pas eu un grand trafic devant chez nous. C'était dans une impasse, etc. Il n'y aurait pas eu un grand trafic. Mais d'avoir des voitures qui passent à 4 mètres devant tes fenêtres, quoi, c'est pas très sympa. Alors, du coup, là, on était en décembre 2005. On avait à l'époque rendu notre congé à notre propriétaire.
Pour la fin du mois.
Pour le 31 décembre. Ouais. Et il nous fallait partir. Ouais. Donc, bon an, mal an.
Mais la région, le coin nous plaisait bien.
Ah, à côté de Bordeaux, oui, c'était très sympa. Et puis, on avait beaucoup d'avantages. Et voilà. Bon, mais on va voir que ce secteur-là n'était pas forcément facile à habiter. Et on va essayer de comprendre après pourquoi. Donc, le 31 décembre, on déménage. Comme on n'avait pas de lieu de villégiature, on a mis nos meubles au garde-meubles, à côté de la prison de, dans la plaine de la Croix, là, ouais. Je me souviens de ça. Et puis, on est parti, et là, on a passé un bon moment. On est parti rejoindre une maison d'hôtes, où tu nous avais trouvé coup de bol, un gîte formidable. Bah, parle-nous de ce gîte formidable.
Bah, c'était donc une dame qui s'appelait Claudine Régal, qui, suite à des divorces, elle avait, suite à son héritage, elle exploitait une maison assez grande et un peu de vigne. Elle avait un chai à Blaye. Voilà. Et donc, pour amortir tous les frais, elle louait ses chambres. Et puis, elle avait une petite maison de 3 pièces à côté qu'elle louait aussi.
Maison en tant indépendante.
Oui, ouais. Elle louait en tant que gîte.
Voilà.
Et c'était très bien parce que ça ne coûtait pas très cher. Ça ne coûtait que 10 euros par jour.
10 euros. Et pour 10 euros, on avait le gîte, l'eau chaude et le gaz.
Et l'électricité.
Ouais.
Et on avait en bas, en cuisine, séjour. Et puis en haut, on avait
deux
chambres.
Voilà.
Salle de bain.
Voilà.
Et un petit jardin. Et elle habitait à côté. Et c'était très sympa. Donc, on s'est dit, là, on peut rester le temps qu'il faut.
Ah à 10 euros par jour.
On aurait pu y rester.
On pourrait y être encore. On pourrait y être encore.
Voilà.
Alors, Claudine Régal, ouais, c'est toujours une femme. On l'a revue il n'y a pas si longtemps que ça. Et femme charmante.
Elle n'était pas bileuse pour deux
sous. Elle louait ses chambres essentiellement aux ingénieurs qui venaient faire l'entretien de la centrale de Blaye.
Oui, tout à fait.
Et c'était toujours les mêmes qui venaient. Et ce qui fait qu'on se voyait très régulièrement, elle était un peu pique-assiette. Elle n'aimait pas faire la cuisine, donc elle venait chez les uns et chez les autres pour se faire inviter à déjeuner, à dîner.
Mais ce n'était pas dans l'esprit de pique-assiette, c'était plus dans l'esprit qu'elle n'aimait pas cuisiner.
Elle n'aimait pas cuisiner, puis elle aimait bien ses hôtes.
Oui, et puis elle aimait bien la compagnie aussi.
Voilà. Elle aimait bien ses hôtes.
Bon, on l'aimait bien aussi. Hein.
Voilà, et puis nous on l'aimait bien. Et alors donc, nous voilà arrivés au mois de décembre, le 1er janvier 2006, on est arrivé là.
On a repris contact avec Michel.
Alors,
Salou.
Après, on a repris contact avec notre entrepreneur qui achetait des ruines pour les retaper, et on est convenu avec lui que... il nous ferait des propositions de son côté s'il avait des choses intéressantes à nous proposer. Et puis nous, on a cherché toutes les ruines sur le secteur de Bourg-sur-Gironde et de Blaye. Alors on a entrepris toutes les agences à qui on ne demandait que des ruines, et à chaque fois qu'on visitait une ruine, j'appelais Michel qui arrivait dard pour nous dire, pour lui demander si la ruine, parce qu'il retapait des ruines, mais c'était pas n'importe comment. Il fallait que la ruine, elle ait un toit, il fallait qu'elle ait quatre murs et un toit. Et après, lui, l'intérieur, il s'en chargeait, mais il fallait déjà ça. Et donc, on l'a pas compris tout de suite, et je l'ai fait venir moult et moult fois sur ces chantiers de ruines. Et là, il disait, non, c'est pas possible, parce qu'il y a ça. Non, c'est pas possible, parce qu'il y a encore autre chose, etc., etc. Alors...
Il est très honnête et très...
Oui, très droit.
Très droit, parce que finalement, il aurait pu nous planter avec un truc.
Complètement. Et donc, bah, notre objectif, c'était ça. Ça ne nous empêchait pas, nous, de regarder la région, de profiter des bons vins qui étaient là-bas, de rencontrer des tas de gens.
D'aller au salon de Blaye.
D'aller au salon, de Blaye, qui était dans la citadelle.
Ouais.
À l'autre salon, ah oui, ça, c'était un salon sympa, le salon international. À Bourg-sur-Gironde, où là, on a fait nos vraies premières armes en matière de dégustation. Alors, comment ça se passait? Quelle était la règle du jeu des salons internationaux des vins?
La règle du jeu des dégustations, c'était c'était un petit groupe entre 4 et 6 personnes.
3-4. Ah,
ça dépend des groupes.
Hein, oui.
Et puis tu dégustais donc des vins qui venaient d'être mis sur le marché. Ils étaient assez jeunes, essentiellement. Si.
C'était des vins internationaux qui arrivaient, qui arrivaient d'outre-Atlantique, d'outre-Pacifique.
Ça dépend des salons. Ça, c'était le challenge du vin.
Mais nous parlons bien de celui-là.
Mais on a été dans d'autres
salons.
Mais
voilà, tu vas trop vite. On va y revenir. Mais ce challenge du vin, c'était quand même assez atypique parce que c'était des vins internationaux. Où tu as.
Tu donnais des médailles.
Et tu donnais des médailles à ces vins internationaux. Voilà. Et alors raconte-nous là, parce que tu avais eu une histoire assez amusante avec un Sud-Américain qui était à ta table un jour.
Ah oui. Bah, il dégustait avec nous et puis. Il aimait tous les vins. Il aimait tous les vins.
Chaque vin que vous dégustiez, il disait j'aime bien.
Ouais, il donnait les meilleures notes et il était prêt à médailler tous les vins du salon, etc. Et bon, moi après, je lui ai demandé comment se fait-il qu'il aimait tous les vins. Je ne me souviens plus ce qu'il m'a répondu, mais.
Il aimait les vins sucrés.
Oui, il aimait les vins sucrés.
Et quand le vin était sucré, il adorait ça et il mettait des médailles d'or.
Ah, il n'avait pas un palais très structuré, bon.
Il était là, il s'était retrouvé là par hasard.
Oui, je ne pense pas qu'il ait bu beaucoup de vin dans sa vie non plus, mais c'était marrant. Ça.
Voilà. Et puis, tu disais tout à l'heure qu'on a été... dans les dégustations, on a dégusté les grands vins de Bordeaux. Les grands vins de Bordeaux aussi, c'était intéressant parce que moi, je me souviens un jour de m'être retrouvé à une table sur un vin, un des vins les plus chers. Bon, je sais pas.
Cheval Blanc.
Le coin de Cheval Blanc. Ouais. C'était pas des Saint-Émilion. C'était des Saint-Émilion ou pas,
ouais.
Bon, et je me retrouve à cette table. J'étais content d'être à cette table parce que on allait pour une fois déguster des bonnes choses. Et alors, quand tu fais des dégustations comme ça, tu commences à 9h du matin, tu en sors vers 11h. Et en 2 heures, tu dois t'avaler entre 12 et 15 ou...
Ouais, ça dépend des salons aussi.
Mais là, il y avait quand même une quinzaine de vins à déguster. Et moi, j'étais content. Et alors arrive le premier vin. C'est le premier, le palais, il n'est pas fait, etc. Et puis autour de moi, je vois des gens qui disent « Ah ouais, ça c'est bien, etc. » Bon. Alors, à chaque table, tu avais un professionnel du vin,
un technicien
du vin, un viticulteur, et puis un Pékin. Et moi, j'étais le Pékin. Et alors, donc, premier vin terrible, pas terrible, deuxième vin pareil, etc. Et ça a été la plus mauvaise dégustation des vins que j'ai faite. Et pourtant, on était dans la région des grands crus, classés.
Ouais.
Alors donc, tu avais dans ces régions de Bordeaux des viticulteurs qui présentaient des vins et qui espéraient avoir des médailles en surfant sur la sur le terroir sur lequel ils étaient. Et là, on était sur un beau terroir, mais le vin n'était pas fameux.
Tu étais déçu, mais je pense que manque aussi d'expérience. Un vin jeune qui sort... tous les vins n'étaient... ils sortaient de cave. La vinif était terminée. Mais notamment pour les Bordeaux et d'autres grands vins, ils étaient relativement jeunes. Et un vin jeune, ça n'a pas le même goût qu'un vin qui, après, est mûr et bon à boire.
Et je suis d'accord avec toi, et plus particulièrement pour les vins de Bordeaux, qui, jeunes, ne sont pas faciles. Mais il n'en restait pas moins que cette première expérience a été désastreuse, mais...
Et puis,
des dégustations, on n'en a pas fait qu'une. Oui, on en a fait plein.
Bah oui, mais de l'autre côté, si médaille pas des vins, le salon, il sert à rien.
Tout à fait.
Etc. Donc,
tout à fait.
Bon, il y a un peu de tout. Et puis, il y a des vignerons qui vont médailler tout. Comme les vins sont anonymes, des fois que ce soit le leur... il y a beaucoup de choses à dire, mais globalement, c'était des expériences intéressantes.
Ça a été des expériences intéressantes.
Et puis, on a fait la dégustation avec les verres aussi. Ça, c'était intéressant.
Alors, ça, c'était à Vinexpo. À Vinexpo, on a fait la dégustation avec les verres Riedel.
Ouais.
Hein, où là, on a dégusté un seul et même vin dans des verres différents. Alors, raconte un peu.
En principe, le goût du vin, ce que tu ressens, il dépend aussi d'une part de la forme du verre.
Du verre.
Oui, parce que suivant la forme du vin, le jet que tu jettes dans le gosier est plus ou moins large ou plus ou moins étroit.
Tout à fait.
Et ça change le goût du vin. Et
tout
puis
à fait.
Après, il y a bien sûr la matière aussi, la finesse, etc., etc. Donc, c'était très étonnant de voir un même vin dans des verres différents qui donne des goûts tout à fait différents.
Des goûts et au palais, d'excellents vins. Hein, vin, il pouvait être excellent ou voire médiocre.
Tout à fait médiocre.
Selon le verre. Alors là, on a appris quand même des choses. Ça, c'était intéressant. On a fait une autre dégustation qui m'avait impressionné. C'était
Porto.
Alors, les Porto, on va y venir après. Ça, je regarde pour la fin, les Porto. Des grands vins de Bordeaux, des grands crus de Bordeaux. On arrive à Vinexpo, tout à fait par hasard, dans un salon...
Vinexpo, normalement,
réservé aux professionnels.
On n'avait rien à y faire.
Oui, c'était principe. Réservé aux professionnels. Mais là, je me souviendrai toujours, on arrive dans ce salon, une grande table qui devait faire 20 ou 25 mètres de long, et tous les 50 cm, des grands crus, les uns derrière les autres. Oh, alors là, mais les grandes étiquettes étaient là, quoi.
Oui.
Ça a été tout à fait étonnant. Alors, les vins étaient jeunes, certes, mais derrière, tu sentais qu'il y avait un bon travail en cave, que les choses allaient être formidables après.
Et puis, au fur et à mesure, tu t'es fait ton palais aussi.
Bien sûr, tout ça, ça va bien ensemble. Mais c'est la première fois, et je pense que ce sera la seule fois de ma vie, où... sur une même table, tu vois les plus grands noms. Tu vois les plus grands noms d'un vignoble, quoi, des vignobles de Bordeaux.
Et tu te servais...
largement, comme tu voulais. Bon, alors ça, c'était l'entrée en matière, avant d'arriver tout à fait par hasard dans un autre bâtiment, où là, on a découvert un salon dans lequel on pouvait déguster les vins de Porto. Alors, raconte-nous ça.
C'était le même principe. Tu avais divers vins de producteurs de Porto qui étaient là et tu pouvais goûter ce que tu voulais goûter.
Mais ces Portos avaient quand même une caractéristique.
Bah, c'était...
C'était des grands vins,
c'était,
déjà.
C'était tous millésimés.
Et ils étaient tous millésimés.
Ouais. Hein? Et puis, bon, moi, c'est la première fois où j'ai bu vraiment des Portos qui était autre chose que le Porto qu'on servait aux vieilles dames parce qu'elles ne voulaient pas d'autres alcools, elles ne buvaient pas de whisky. Quoi.
C'est... Tout à fait. Et puis pour moi aussi, hein, c'était une grande découverte. Quoique j'avais eu lors de à deux reprises dans, dans des voyages professionnels l'occasion d'aller à Porto et de faire des dégustations, mais je n'avais pas le palais encore assez affirmé pour bien en profiter, mais j'avais déjà bu de très bonnes choses. Alors là, donc, on arrive, il est à peu près 5h moins le quart, le salon fermait à 5h, et les gens commencent à partir, toujours des professionnels, hein, des camistes, tout autre. Les gens commencent à partir, et puis nous, on voit toutes ces bouteilles encore pleines, et derrière, on voit, il y avait une terrasse qui jouxtait ce salon. Et Michaela me dit, tu vas t'installer sur la terrasse, je reviens avec les bouteilles. Et effectivement, tu es revenu avec 2-3 bouteilles, pas toutes entièrement pleines, mais quand même certaines bien. Hein. Et nous voilà, et on est resté sur la terrasse, on discutait un peu avec les gens alentour sur la... Il faisait beau, c'était sympa. Les serveurs commençaient à débarrasser dans la salle, et puis nous, on buvait. Arrivé à la deuxième bouteille, c'était bien, quoi. Et tandis qu'on était à Bordeaux, le soir, on couchait chez notre copain, comment il s'appelait ? Jean Vissaguet.
Ouais.
Notre copain Jean Vissaguet, on couchait chez lui, il nous retenait... pour pas qu'on ait trop de route à faire. Et là, ça a été un moment assez exceptionnel, où je ne sais plus si c'est toi ou moi qui avons conduit.
Je crois que c'est plutôt moi, parce que toi, tu avais bien...
Ah ouais, ouais. Là, c'était une des dernières... une des dernières beuveries. Où, voilà. Donc, on a bu de très bons Porto. On en a ramené une bouteille, parce que sur les 3, il en restait encore une qu'on n'avait pas descendue, à notre copain Jean Vissaguet. Et voilà comment on a découvert les bons vins de Porto et du monde, hein, parce que à Vinexpo, tous les pays du monde étaient représentés.
C'était sympa. Ouais.
C'était vraiment très sympa. Ouais. Voilà un bon moment. Alors, eh bien, on avance petit à petit là dans notre cheminement. L'année 2006 se passe, et toujours en quête de maisons, de ruines. On n'avançait pas. Et il se trouve que début 2007, en février 2007, je me souviens encore du mois. Il venait de neiger sur la région. On reçoit un coup de fil de Michel Salou qui me dit « Claude, écoute, j'ai une ruine à te proposer et derrière ça, pourquoi je te la propose ? Parce que en fin de compte, on se la gardait pour nous, ma femme et moi. Et je voulais la retaper joliment. Et cette ruine, elle était en Charente-Maritime. Alors que le cœur de notre clientèle se trouvait sur Bordeaux, où ils habitaient.
Entre Bourg et Bordeaux, on va dire.
Voilà, ils étaient dans ce coin-là. Donc, si ça te dit, Michaela et toi, venez, on vous emmène et on va aller visiter...
La ruine.
Alors, effectivement, donc on arrive par les petites routes, vraiment ravitaillées par les corbeaux. Hein. Il venait de neiger, la nature était assez blanche, c'était assez joli. Et on arrive sur cette ruine, avec encore quelques tuiles qui tenaient vaille que vaille sur le toit. Qu'est-ce qu'il y avait ? De la tôle. Hein, il y avait de la tôle.
une pièce ou deux qui avait été un peu restaurée, où il y avait des gens.
C'était un infirmier qui habitait là,
oui,
qui élevait, oui, des, qui élevait des serpents.
Oui.
Hein, tu te souviens? Il travaillait à l'hôpital de. Il travaillait à l'hôpital de
Jean-Jacques.
De Jean-Jacques, voilà. Oui. Alors, donc là, le lieu s'appelait Barbe Gilet.
Oui.
Dans un village, c'est un lieu dit, qui était domicilié dans un village qui s'appelait Sainte-Anastasie.
Non, Fontaine d'Ozillac.
Fontaine d'Ozillac, oui, je confonds. Fontaine d'Ozillac. Et Fontaine d'Ozillac était à quelques kilomètres de Jean-Jacques.
Ah.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette... Est-ce que tu te souviens de cette première visite?
Oui, oui, je me souviens très bien. Bon, ben, le lieu était sympa. Toi, tu faisais... il fallait quand même sérieusement restaurer...
Il y avait quatre murs, ouais, et même plus de toit. Mais il y avait encore une charpente.
Oui, et puis, on avait un peu marre de chercher aussi. Michel, je crois qu'il en avait ras-le-bol
visiter des ruines avec nous.
Et on lui a demandé combien ça coûtait. Le prix n'était pas très cher. C'était 60 000, je crois.
Alors, la ruine, c'était 60 000 euros. Mais ce prix-là nous était concédé que dans la mesure où vendu par le marchand de biens Michel Salou, où l'entreprise de Michel Salou, l'entreprise de maçonnerie,
faisait la restauration. Ouais. Nous, ça nous allait bien.
On était partis dans cette démarche-là. Alors après, moi, j'ai gardé un excellent souvenir de la suite du film. Février, donc, on visite. Mars, on donne notre accord, après avoir invité Michel chez nous dans notre petite maisonnette, là. Et nous voilà partis. Alors, sur quelle base, comment on a échafaudé la reconstruction de cette maison? On est parti d'un principe, c'est que, à partir de plans, on a reconstruit ensemble la maison à travers un échange. Vous venez voir Michel Salou une fois par semaine chez lui. Il nous invitait, et puis on finissait en dîner chez lui après. Et pendant 2-3 heures, on reconstruisait la maison. Alors on reconstruisait la maison, alors on avait des tas d'idées, faire comme ci, faire comme ça, sachant que lui... Il nous recevait dans sa maison. Ah oui, sa maison, elle n'était pas à Bordeaux, elle était les deux. C'était une jolie maison, qu'il avait, un corps de ferme qu'il avait retapé, avec un séjour magnifique, tout en forme arrondie, etc. C'était beau chez lui, c'était beau. Bon, donc, dans ce cadre un petit peu privilégié, on a construit notre maison. Alors... Je disais à Michel, ah ben moi j'aimerais bien avoir un truc comme ci, comme ça, comme t'as là, chez toi, ou un autre. Alors, si tu veux, à chaque fois, on lui disait quelque chose et il chiffrait. Alors, il chiffrait, et puis à un moment donné, on était parti sur un budget total de 150 000 euros. Et régulièrement, il nous disait, ben non, ça c'est pas possible, parce que on va faire sauter tous les compteurs... et vous n'aurez pas les moyens d'avancer comme ci, comme ça. Bon, alors on faisait machine arrière, alors comment on va faire, etc., etc. Et tout ça, ça a duré, pas loin de 6 mois. Pas loin de 6 mois, et on a fini notre prospective, on a fini ça vers le 15 juin, ou quelque chose comme ça. Et on avait comme objectif aussi de se dire qu'on voulait habiter cette maison pour fin 2017. Et donc, on arrête tout ça. Michel nous dit, bon ben voilà, je suis prêt à commencer les travaux le 1er juillet, ou le 15 juin, je ne sais plus, bah, dans ces eaux-là. Et 3 mois suffiront pour faire la maison. Ça, lui fait, ça, c'est pas possible. Ça, tu ne peux pas faire un truc pareil. Tu n'as pas assez de temps pour tout reconstruire, quoi. Il fallait tout reprendre. Bien sûr, cette maison qui faisait 300 mètres carrés au sol, on était parti pour la faire en deux temps. D'une part, une première partie de 125 mètres carrés, une zone d'habitation pour nous, nous deux. Ouais. Et puis, une autre partie de 70 mètres carrés environ. Où...
On faisait un gîte.
Et on faisait un gîte, ouais, qui était séparé de notre habitation par un grand garage.
C'est une espèce de grange.
Une grange, voilà, ouais, dans laquelle... le précédent propriétaire mettait ses tracteurs, tout son bazar, là. Alors, nous voilà partis. Et puis, Michel me dit, bon, ben voilà, je vais te présenter à mes gars. Et ils vont, tu vas voir, tout va très, très bien se passer. Tout va très bien se passer. Alors, ben, j'ai fait, ben, tes gars, ils sont où, comment? Ben voilà, c'est des Roumains. Comment ça, des Roumains j'avais pas posé la question de savoir s'ils employaient des Français. Et non, lui, il employait des Roumains qui venaient de Roumanie. Alors, parle-nous des Roumains.
Il n'y a pas grand... Comment il s'appelait, le chef
Vitali.
Vitali, effectivement. Vitali parlait français. Il
parlait bien français.
Il habitait aussi en France. Et puis, il avait l'habitude de traiter des chantiers. Donc, il allait recruter des gars en Roumanie.
Exactement.
Et puis, il les amenait. Il s'occupait de l'hébergement. Et puis... effectivement, ça allait vite parce que les gars étaient payés à la tâche. Hein, et donc, plus vite ils rentraient chez eux, mieux c'était. Donc, on a eu une petite équipe de 6
ouais,
avec Vitali.
Ouais.
Et bah, ils ont travaillé samedi, dimanche, presque la nuit aussi. Et effectivement, ils ont bien bossé. Et ils ont bossé relativement vite.
Tu te souviens du jour où on est arrivé? Là, ils commençaient les travaux. Ils avaient enlevé les quelques tuiles qui étaient sur le toit. Tu te souviens de ce qui s'est passé, là, de notre réaction?
Non, je me souviens que tu étais quand même un peu inquiet.
Ah oui, j'étais inquiet parce qu'on aurait cru Beyrouth. Beyrouth, oui. Les tuiles étaient par terre. Ils les avaient jetées du toit. Elles étaient foutues, tout ça. Et c'était terrible. Moi, ça m'avait vraiment impressionné, d'autant qu'on était propriétaire de la ruine, quoi. Et derrière, c'était inquiétant, quoi. Et puis, bon, ben, les choses commencent, le chantier commence à se mettre en place.
Ça avance bien.
On y allait une à deux fois par semaine. Et les choses avançaient bien. Puis à un moment donné, là, Michel me dit, bon, ben écoute, je dois retourner avec Fran, ma femme, on doit aller aux États-Unis voir son père qui n'est pas bien. Et donc le chantier, c'est toi qui vas t'en occuper, toi et Vitali.
Et Vitali.
Ah! Ça, c'est quand même inquiétant. C'était pas prévu non plus que tu quittes le chantier parce que on reprenait tout de rien, quoi. Il y avait pas de sol, il y avait de la terre battue, etc., etc., quoi. Bon, alors là-dessus, eh ben, nous voilà à faire plus ample connaissance avec Vitali. Vitali qui était quand même un peu inquiet, si tu te souviens. Il était un peu inquiet de voir Michel partir. Et de ne pas avoir été payé. Il y avait un truc comme ça. Et il n'avait pas été payé. Et je me souviens que Vitali me dit, mais est-ce que vous avez versé, on payait nous par situation, est-ce que vous avez versé telle situation à Michel Salou? Nous, moi, quand les choses étaient au clair, oui, à chaque étape du chantier, on versait des situations, et moi j'avais versé la situation. Parce que, il fait, parce que Michel, il s'en va, mais il ne nous a pas payé. Alors je me dis, bon, ben, j'espère qu'il va vite revenir, que les choses vont bien se passer, etc. Et puis du coup, bon, on a sympathisé bien avec Vitaly, les choses se sont bien passées.
Ils étaient braves, les gars.
Ils étaient braves, mais formidables, quoi. Des gars formidables. Et cet épisode-là passé, Michel est revenu, il a dû payer les gars, et tout ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'interruption sur le chantier. Et puis, les choses avancent. Et arrivé vers le mois de septembre, début septembre, Michel me dit, voilà, ça va être terminé, ton chantier va bientôt être terminé. Et effectivement, quand on se rendait sur le chantier, on voyait que tout était bien en ordre. Alors je dis à Michel, bon bah écoute, top là, on termine pour le 21 septembre. Pourquoi le 21 septembre? Parce que c'est mon anniversaire. Ouais. Et je veux pendre la crémaillère le 21 septembre. Bon, alors les autres ont mis... comment dirais-je, les bouchées doubles pour terminer tout ça. Et en fin de compte, on s'est retrouvés dans notre longère le 21 septembre. Oui, c'était une maison tout en longueur, avec 120, 130 mètres carrés habitables pour nous, ensuite 70 habitables pour le gîte, et au milieu de cette grange sur laquelle on est très peu intervenu. Juste Michel était intervenu pour consolider un peu la toiture, mais il n'y avait pas eu grand-chose de fait là. Donc, le 21 septembre au soir, ben, c'est parti pour prendre la crémaillère. Alors, on avait invité Michel, mais il n'avait pas pu venir, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a pendu la crémaillère avec Claudine, son Jules. Et puis l'autre, là, comment il s'appelait, ce gars un peu instable qui habitait chez Claudine Stéphane?
Non, c'est pas Stéphane. Non, pas Martial. Le jeune, là.
Le jeune, ouais.
Ouais.
Bon. Donc, voilà, ils étaient trois, on était deux, on était cinq, autour d'une table à la bonne franquette. Et voilà, on a sablé le champagne et là, ben, on s'est installé. On s'est installé gentiment, c'était l'automne, c'était bien. Et on a pris nos marques, on a été faire des tours chez Ikea et encore chez Ikea, et on passait notre vie chez Ikea. Mais ça, c'était qu'un début. Non, c'est une continuité parce que...
On avait quelques meubles quand même.
Ouais, puis on avait été chez Ikea à Aix-en-Provence pour se meubler.
Oui.
Voilà. Oui. Donc on avait récupéré des meubles Ikea à... comment dirais-je... à Aix. Ouais. Hein, parce que le garde-meubles, eh ben, ça aussi, ça nous importait d'aller assez vite dans les travaux. Parce que le garde-meubles, il fallait le payer tous les mois.
Ouais.
Et là, le camion de déménagement nous a ramené tous nos meubles Ikea. On n'était pas très riche à l'époque. Et donc, Ikea. Et puis, qu'est-ce que tu as fait, toi, de très bien réussi dans notre maison en Ikea, avec Ikea?
La cuisine.
C'était la cuisine.
Bah,
ça, c'était une vraie réussite.
Oui, parce que toi, tu avais voulu un cuisiniste.
Non, le cuisiniste, je l'ai voulu ici. Ici. Mais on reviendra pourquoi ici, à Auray. Donc, pour l'instant, on est encore à Barbe-Gilet.
Non, on avait déjà... Tu avais voulu, avant, déjà un cuisiniste ici.
Non, parce que...
À Quiberon.
Ah, mais à Quiberon. Oui, à Quiberon. Ouais. J'ai voulu un cuisiniste, mais on n'est pas à Quiberon, on est encore à Barbe-Gilet, en Charente-Maritime.
Mais je cherchais le cuisiniste.
Voilà. Et donc, c'est toi qui as fait le cuisiniste, qui nous a fait une jolie cuisine, qui a été monté par Michel, par l'équipe des Roumains, qui nous a monté ça. Il a fallu faire ça aussi, c'était intéressant, c'était une belle expérience, parce qu'elle était grande, notre cuisine, quand même. Hein, ouais. Tu avais fait quoi, une douzaine de mètres linéaires de meubles, haut, bas, etc.
Ouais, puis on avait une table, on avait un canapé, on pouvait manger.
Ouais, on avait un canapé dans la cuisine.
C'était bien.
C'était bien. Alors, maintenant parlons du séjour de Barbe-Gilet.
Ben, on avait un grand séjour en deux parties, avec une cheminée, une mezzanine au-dessus.
Oui.
Et puis, ben, il y avait une partie qui était plus sous la mezzanine, qui était plus sombre, donc c'était notre salon de télé.
C'était le salon de télé, et c'était le home cinéma.
Ouais.
On avait installé un home cinéma. Et puis dans l'autre...
On avait une grande table, on avait...
Et puis on avait ramené nos canapés qu'on avait achetés à Aix, qui étaient des très beaux canapés. Voilà. Et là, c'était bien. Là, on avait un séjour hauteur-plafond, 8 mètres.
Ouais. Avec une cheminée.
Avec une grande cheminée qui ne tirait pas bien. Et on chauffait tout ça, ce grand séjour cathédral, là, qui faisait... c'est immense, hein. On le chauffait avec deux poêles à pellet. Hein, on avait essayé des poêles à pellet. Poêles à pellet, 25 kilowatts chacun, là. Ça marchait bien, c'était bien. C'est Michel qui nous avait fait découvrir les poêles à pellets.
Tout à fait.
Voilà. Et c'était beau. Et c'était un très beau séjour. Hein, avec une vitre en forme de trapèze. On avait mis des oiseaux devant la vitre pour pas que les oiseaux viennent se cogner. Tu te souviens?
Oui, en haut.
Voilà. Devant ce séjour et cette cuisine, eh bien, on avait une terrasse.
On mangeait dehors. Avec un arbre.
Avec un arbre, ouais, qui nous abritait. On était bien.
Et puis une petite maison.
Maison qui était une remise de... Voilà.
On était bien.
C'était sympa, hein.
Ouais.
C'était sympa. Donc, nous voilà partis de 2007 à 2014. Hein, puisque... en 2012, ma mère est morte, on a récupéré Quiberon et on a décidé de quitter Quiberon. De quitter Fontaine d'Ozillac en 2014.
Ouais. Ben ça sera le prochain épisode.
Ah oui, c'est pour ça qu'il faut bien boucler.
Ouais.
Barbe-Gilet.
Non, mais c'était bien.
C'était bien.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Là, on a fait deux conviviums pour Slow Food. Un premier qu'on avait commencé repris à Bordeaux.
Oui.
Et un deuxième à Barbe-Gilet qu'on avait fait en Charente-Maritime. Alors, parle-nous un peu de l'activité de ce convivium. Parce que là, on avait fait des choses très, très, très intéressantes.
Ouais, on a fait des dégustations, on a fait des dîners, on se mettait à 5-6 et puis à tour de rôle, chacun cuisinait.
Ça, c'était des marchés-repas
qu'on
faisait à midi. Alors, c'est-à-dire qu'on allait sur un marché, à droite ou à gauche,
on achetait
tous les ingrédients pour faire notre repas et on rentrait tous ensemble chez l'un ou chez l'autre pour les cuisiner.
Tout à fait. On avait aussi organisé un petit marché à Fontaine d'Ozillac.
À côté de Fontaine d'Ozillac, à Chonac.
Ouais.
Et là, c'était une vraie réussite. Ouais. Et j'en suis assez fier parce que...
Chonac avait des halles.
Chonac avait des très jolies halles qui avaient été reconstruites.
Ouais.
Hein?
Et on avait demandé à la mairie si on pouvait avoir accès aux halles.
Voilà.
Et puis, comme on avait été sur pas mal de salons, et à droite et à gauche, donc
on
connaissait un certain nombre de producteurs.
Ouais.
Donc, on les invitait à venir une journée à Chonac.
Ouais.
Et puis... ils payaient rien, ça les avait beaucoup surpris parce qu'ils demandaient combien ça allait coûter. On leur dit que c'était gratuit
à condition
qu'ils fassent goûter leurs produits,
déguster les produits aux chalands qui passaient. Et on avait ramené du monde, hein. On avait eu plusieurs centaines de personnes qui étaient venues.
C'était...
Et ça, c'était une belle réussite. J'ai encore des jolies photos de ça. Et au terme de cette journée, leur grande préoccupation, c'était de savoir quand on allait recommencer. Ouais. Tu te souviens ?
Ouais.
Hein ?
Ouais.
Et puis, en fin de compte, on n'a jamais recommencé parce qu'on a quitté la Charente-Maritime. Avec Slow Food, en Charente-Maritime, on avait organisé des dégustations de cognac.
Oui, ben, on est allé voir les producteurs de cognac.
Les producteurs de cognac, oui, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on avait fait d'intéressant
on avait fait... D'abord, ils nous ont initiés à la fabrication du cognac. Ils avaient dressé une jolie table où on avait tous les échantillons du début de la vinif jusqu'à la sortie du cognac.
Oui, et ça, au pied de l'alambic.
Oui, oui.
Ça, c'était bien, ça. Tu avais l'alambic qui faisait couler son jus, là.
C'était le moment de la distillation.
De la distillation, voilà. Ça, c'était bien. Alors, on avait fait une grande tablée. On était, une vingtaine, 25.
Mais c'est là où Slow Food a le mieux marché.
Eh oui, mais Slow Food marchait bien quand on s'en occupait bien.
Mais il y avait de l'intérêt aussi.
Mais oui, s'en occuper, c'était de donner intérêt, comme tout, donner intérêt aux uns et aux autres. D'abord, d'avoir le plaisir de la dégustation, certes, le plaisir de se connaître. On avait un bon petit fonds de commerce d'amis, un bon groupe d'amis, et c'était bien.
C'est une jolie période. Des bons souvenirs.
Et puis on a été très productifs pour Slow Food. Slow Food qu'on voyait aussi régulièrement tous les deux ans à Turin.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on allait faire à Turin ?
On allait visiter le Salon du Goût à Turin.
Voilà. Et qu'est-ce qui s'y passe au Salon du Goût à Turin ?
C'est un salon mondial de petits producteurs qui viennent du monde entier et qui sont là pour vendre leurs produits, les faire découvrir, les faire déguster. Et puis, Slow Food organise aussi des tas de dégustations,
d'ateliers, de réflexions. Ça dure une petite semaine. C'était le plus grand marché du monde.
Ouais,
mais non, moi je dis marché parce que les mamies de Turin, les Italiennes, elles venaient
faire leurs courses
avec leurs caddies et on repartait avec des caddies pleins.
Ouais. Mais oui, le prochain, c'est l'année prochaine.
Le prochain, c'est l'année prochaine. Je ne sais pas si on pourra y aller.
Si. Ça a été annulé cette année.
Oui, mais je ne sais pas si on pourra y aller, si les conditions sanitaires.
Optimiste.
Voilà, on va rester optimiste. On va arrêter là, on a parlé pendant une heure dix minutes. Mon chéri, je te remercie pour ta précieuse collaboration.
Je te remercie aussi.
Rendez-vous dans un mois pour la suite de la petite histoire de notre vie.
D'accord.